Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Voix au chapitre. Evelyne Jobin.
Bonjour, bienvenue dans Voix au chapitre. Je vous propose aujourd'hui la quatrième partie de mon adaptation du roman de Jérôme Aumont intitulé Un empêchement, qui est paru en août 2023 chez Christian Bourgois éditeur. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un roman choral constitué de trois voix, celle de Mathieu, puis de Xavier, puis de Marie. Aujourd'hui, nous arrivons dans la partie de Xavier. La main qui s'ankylose, les freins qui lâchent, la direction peut-être, je ne saurais jamais. Le taillis fonce sur la calandre de la voiture, un arbre déchire la portière. Le rétroviseur sectionné se détache de la carrosserie et disparaît dans la pénombre. Pas de réverbère pour immortaliser la scène, pas d'autre véhicule à l'horizon, personne pour donner sa version des faits. Le pare-brise résiste d'abord un peu puis se fissure lamentablement avant d'imploser, comme un verre Duralex projeté sur le carrelage d'un réfectoire. La tôle commence à vriller, emportée par la violence du choc et l'inertie des 1060 kg de ma MGF coloris vert anglais. La capote en tissu noir bientôt s'éventre plus qu'elle ne se déchire. L'autoradio continue de jouer encore un peu, mais la voix androgyne qui murmurait un instant plus tôt à mon oreille « Nothing's gonna hurt you, baby » à son tour se laisse gagner par le déraillement de l'ensemble. Tout à la violence du choc, mon roadster s'envole dans un premier tonneau auquel je ne survivrai pas, m'épargnant l'affront de la suite, mon visage qui cogne sur l'habitacle puis sur le tableau de bord, avant que la ceinture de sécurité ne cède. Mon corps éjecté, mes vêtements lacérés par ce qui reste du pare-brise, et mon être tout entier qui s'envole quelques secondes à peine pour rouler un peu plus loin sur l'enrobé bitumeux, damé de frais l'après-midi même par le personnel de la DDE. Voilà, quelques secondes à peine, et me voici face contre terre, le regard et tout sourire éteint. Je n'aurais finalement pas eu à affronter ce qui m'a terrifié pendant 43 ans, ce vertige de ne plus être maître de mon corps sculpté par la négligence. C'est une bucolique route de campagne bas-normande qui aura fait de moi un cadavre. À bien y réfléchir, je suis presque reconnaissant à l'obscurité, au manque de visibilité, à la route verglacée, à l'oubli du contrôle technique ou à l'usure asynchrone des pneus, de m'avoir ainsi épargné un séjour longue durée dans le service cancérologie d'un CHU, à l'architecture mussolinienne, aux ascenseurs fatigués, aux couloirs glacés et aux chambres surchauffées. Content de ne pas avoir eu à endurer les mines compatissantes de ses proches, prêts à oblitérer un samedi après-midi par mois pour venir constater avec soulagement que ce n'est pas eux que la maladie a choisi de clouer à un lit tristement monogrammé, d'amaigrir, d'affaiblir et de plonger dans les noires pensées de ceux qui se savent regarder au passé. Et parce que l'ironie se loge dans les détails les plus improbables, c'est à de triviales préoccupations administratives que je consacre mes ultimes connexions neuronales. Non pas comme une vaine tentative de m'élever a posteriori à de plus hautes vertus que celles qui auront gouverné ma vie, mais sans doute parce qu'en de telles circonstances, il n'est pas si absurde de s'inquiéter des démarches que l'on va dès lors déléguer. Je prends conscience que je ne serai bientôt plus qu'un patronyme, un sexe, une date de naissance, un numéro INSEE, répété à l'envi devant une infinie variété de guichets à hygiaphone, mairie, sécurité sociale, URSSAF, mutuelle, internet et téléphonie mobile. J'imagine d'interminables files d'attente menant à de non moins interminables explications face à des fonctionnaires, stagiaires ou salariés à temps partiel qui, d'aussi bonne volonté soient-ils, finissent toujours par vous répondre qu'il manque un certificat, une signature ou, de manière plus ulcérante encore, « Désolé, il va falloir repasser quand ma collègue sera revenue de sa pause déjeuner. » Oui, c'est bien à cela que je consacre mes dernières errances mentales. Et à toi, qui vas recevoir un appel d'un numéro inconnu sur ton téléphone portable entre 22 et 23 heures. Je présage que tu commenceras par pester contre François, ce collaborateur qui refuse de verrouiller son vieux smartphone avant de l'abandonner dans le fond de sa poche. Tu t'apercevras ensuite que c'est un autre numéro qui s'affiche sur ton écran à cristaux liquides. Tu hésiteras tout d'abord et préféreras privilégier la thèse de l'erreur ou du faux numéro. Tu tarderas à répondre, marquant ainsi une forme compréhensible de déni ou de temps gagné sur un après abyssal. Puis tu balayeras finalement de l'index le pictogramme vert pour murmurer un timide « Allô ?» qui trahira simultanément ton agacement d'avoir été dérangé pour rien et l'appréhension d'avoir à affronter un événement qui va engloutir ta vie tout entière. À 22h30, Hervé L., brigadier d'astreinte à la gendarmerie d'Honfleur, reçoit l'appel d'un automobiliste traumatisé par le spectacle de mon corps au milieu de la chaussée. Le premier à avoir emprunté le tronçon de D513 où mon cabriolet aura rendu son dernier vrombissement. Il va falloir prendre sa déposition, lui remonter un peu le moral aussi, s'assurer que tout va bien. Ce n'est pas forcément le genre de tâche où Hervé excelle, mais il prend sur lui, se persuade qu'une petite tape dans le dos vaut tous les discours, plus proche du minimum syndical que de la cellule de soutien psychologique. Il gère néanmoins le reste de main de maître. Il faut lui reconnaître ça. 67 minutes après mon funeste et fulgurant salto, la circulation est de nouveau autorisée sur cette portion de route. SAMU, société de dépannage, expert de tout craint, les habituels corps de métier se sont succédés dans un élégant balai mortuaire. Seuls quelques éclats de verre et taches de sang brillent encore dans le faisceau des gyrophares. Voilà ce qui reste de moi et de mon précieux Robster sur le goudron encore luisant. Les faits sont rapidement établis, accident mortel, homme, la quarantaine, sortie de route au volant d'un cabriolet de marque anglaise sur la route départementale D513. Bien malgré moi, j'ai engendré une réaction en chaîne impliquant pas moins de 18 véhicules, 12 coups de téléphone et une bonne trentaine de personnes qui n'avaient pas prévu de passer une heure sur la D513, moteur à l'arrêt, en ce vendredi soir que rien ne prédestinait à être autre chose qu'une banale veille de week-end. Quand la mort surgit ainsi dans un virage, nul ne songe à klaxonner, maugréer ou déplorer ce temps que l'on vous dérobe. À l'arrière des berlines règne un silence blanc. Les enfants abandonnent leur téléphone portable dans le fond du siège, ils veulent savoir ce qui se passe, ils iraient bien jeter un œil si on les y autorisait. Devant, on se tait, on regarde dans le vide, on sait trop bien ce qui se passe. On aperçoit une silhouette barrée de bandes fluorescentes, une housse noire que l'on déploie. Les enfants n'ont plus très envie de s'approcher. Ils remettent leurs écouteurs en place et baissent de nouveau les yeux sur leur téléphone. À quelques dizaines de mètres de là, trois pompiers volontaires, 25 ans à peine, procèdent au ramassage de mon corps sans vie. Je n'ai jamais compris où l'on puisait la force d'affronter ainsi sa peur de la mort au quotidien. J'ai foutu en l'air la soirée de ces trois gamins. Je les préférerais devant le miroir de leur salle de bain. Je les vois en train d'ajuster le col de leur chemise ou de dompter un épi rebelle avant d'aller boire un verre dans un bar ou un club du coin. Voilà ce qu'on fait quand on a 25 ans. On ne ramasse pas des corps sur les routes départementales. On drague, on boit, on se chauffe, on bouffe la vie. Avec mon obsession de ne jamais déranger, c'est tout un équilibre précaire qui vient de s'effondrer dans le silence de cette nuit d'automne. Parce qu'une part de moi a soudain trouvé judicieux de mettre en lumière des talents acrobatiques sous-exploités. Et j'entends déjà les relents de malveillance qui gâtent l'éloge funèbre, les voix qui s'empressent de gloser sur une imprudente consultation de mon téléphone portable sur une route réputée dangereuse. J'en entends d'autres, plus mal intentionnés encore, qui évoquent une probable surconsommation d'alcool ou je ne sais quelle substance psychotrope. J'ai bien conscience de prêter ici une attention disproportionnée et un peu absurde, qu'en dira-t-on ? On ne se refait pas. J'aimerais périr tranquille, sans m'interroger sur l'état de propreté de mes sous-vêtements, la manière dont sera analysée ma dernière prise de parole sur les réseaux sociaux, la position de mon compte bancaire ou mon ultime conversation téléphonique avec ma mère. Mais je n'y parviens pas. Mon corps se gonfle d'une colère froide et d'un profond malaise. Je suis en train de mourir et je ne m'autorise pas le moindre répit. Jusqu'au bout, une invisible pression sociale a raison de tout le reste. Je sais exactement ce qui va se passer dans les prochaines minutes et les prochaines heures. Mon corps va devenir raide comme un bout de bois. Une expression pathétique va figer mon visage déjà ébranlé par la violence de l'impact. Mes sphincters vont piteusement se relâcher. Je préférerais ne pas y penser. J'aimerais m'abandonner à des considérations plus spirituelles, existentielles peut-être. Non. Je suis juste embourbée dans tout ce que je devrais me féliciter de fuir. Si je n'étais pas en train de mourir, je me tuerais volontiers d'avoir une réaction si pusillanime. Et alors que mon corps se vide peu à peu de toute vie, je ne peux m'empêcher de ressasser ce triste souvenir d'un soir de l'été 2012. Quelques minutes avant de se jeter sous une rame de métro de la ligne 12, mon amie Yvonne D. avait posté ce message lapidaire sur son compte Facebook. « Je n'y arrive plus, pardon. » J'ai le sentiment que j'y arrivais plus ou moins. Je ne me laissais pas d'essayer. C'est à elle que j'espère alors naïvement pouvoir adresser mes dernières paroles, comme si, par un improbable ordre des choses, j'allais la croiser d'un instant à l'autre, puisque c'est désormais un fait établi, je suis mort. Whispered something in your ear, it was a perverted thing to say, but I said it anyway. When I dance in my living room.
the sunglasses on to a favorite song. And we're laughing in the microphone and singing with the sunglasses on to a favorite song. Gonna take you from me, say.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Il est environ 23h30 quand l'écran de ton téléphone portable s'allume sur une table basse que je ne peux seulement qu'imaginer puisque je n'ai jamais mis les pieds dans ton salon. Ton épouse est assoupie sur le canapé. Comme à ton habitude, lorsque tu passes de rares soirées chez toi, tu tues le temps et l'ennui en zappant d'une chaîne à l'autre. Peut-être y a-t-il un roman qui traîne sur la table basse du salon. Est-elle en verre, en bois, en marbre, je ne sais pas. Là encore, j'imagine. Le visage de ta femme n'est qu'à quelques centimètres du tien lorsque tu murmures « Allô » dans le micro de ton téléphone portable. « Monsieur R ?»« Oui. » Bonjour, désolé de vous déranger si tard. Brigadier L, gendarmerie d'Honfleur. Je me permets de vous contacter suite à un accident de la circulation qui vient de se produire sur la départementale D513 entre Trouville et Honfleur. Nous venons d'identifier le corps de Monsieur N. Son téléphone portable se trouvait à quelques mètres du véhicule et il était miraculeusement intact, le téléphone, je veux dire. Nous sommes parvenus à le débloquer et utilisons les données dont nous disposons afin de prévenir ses proches. D'après la nature de vos derniers SMS, nous en avons déduit que vous étiez une des personnes à contacter. Mon collègue est en train de prévenir sa mère, puisque son père est décédé d'après nos informations. Alors voilà, toutes mes condoléances. Nous ne disposons pour l'instant d'aucune piste quant aux circonstances de l'accident. Nous savons juste qu'il n'y a pas d'autres véhicules impliqués. Nous privilégions la thèse d'une perte de contrôle du véhicule, une plaque de verglas peut-être. Monsieur N est décédé sur le coup, il n'a pas souffert. Toutes mes condoléances encore une fois. Pour ce qui est des démarches administratives, il revient à la famille de les effectuer. Je vous invite par conséquent à prendre contact avec Madame N, sa mère. C'est tout ce que je peux faire. Si vous n'avez pas de questions, il me reste à vous souhaiter bon courage. Des questions, tu en as plein la tête, mais à ce stade, prévaut surtout une envie de vomir, de hurler et d'expectorer la douleur sourde qui vient de se loger au creux de ta gorge, mi-boule de feu, mi-botte d'aiguille. Une douleur d'une fulgurance telle que tu te demandes d'abord si tu ne vas pas tout simplement t'évanouir. Tu lèves les yeux au plafond et là, dans ce silence que plus rien n'habite, sinon l'écho de la voix de ce gendarme bas-normand t'informant qu'il a lu ton dernier texto, tu t'abandonnes sans aucun préavis à un hurlement d'une puissance telle que le locataire du 6e étage et tes voisins de palier, se croisant dans l'escalier le lendemain matin, se confieront à demi-mot qu'ils ont cru à un meurtre. Tout va ensuite très vite. Ta femme élève son visage hagard au niveau du tien, t'interroge du regard. Tu te lèves sans un mot. Tu t'arraches du canapé et saisis ton manteau dans l'entrée. Tu es en chaussettes et dévales 4 à 4 les marches des 5 étages te séparant de la rue. Tu cours jusqu'au square Georges Brassens. Tu tombes de tout ton long au pied du premier arbre venu. Tu t'écorches le genou, troues au passage ta chaussette droite. Tu laisses enfin ton corps expulser sa douleur. Le visage enfoui dans les gravillons d'une allée plongée dans l'obscurité. dans un mélange de larmes, de bave et de morve. Difficile de dire combien de temps tu restes là, prostré, incapable d'intimer un ordre quelconque à ton corps. Tu es mille fois mieux ici que dans ton canapé trop mou. Ici, tu peux enfin contempler tout ce que tu viens de perdre, tout ce que tu as gâché, tout ce que tu as trahi. Un grand chelem sur la première marche du podium, toutes catégories confondues. Quel gâchis, mon amour, quel immense gâchis. Ce matin encore, tu débarquais dans mon petit appartement, un kouglof à la main. Ton visage n'était qu'un immense sourire. Les bras et les yeux chargés de promesses, tu te déshabillais à la hâte avant de me rejoindre sous les draps. Ta présence seule transformait mon studio amélioré en palais. Ton rire claquait le long des vitres. Ton parfum prenait ses quartiers pour enivrer peu à peu la pièce tout entière. Plus tard, tu libérais le kouglof de son emballage de papier. Des arômes de beurre et d'amandes grillées s'échappaient. Nous étions deux rois, heureux et repus. Pour peu enviable que soit mon sort à présent, je te plains de toutes mes forces. Tu vas devoir continuer à vivre dans ton bel appartement bourgeois, avec ta femme délicieusement dépressive, tes week-ends sur l'île de Ré chez tes beaux-parents, tes déjeuners professionnels interminables, tes rares soirées entre mecs, toutes ces obligations qui scandaient ta vie et te tenaient par là même éloignée de moi avec une cruauté métronomique. Tout ce qui rendait au reste du monde ton existence respectable et bien rangée. Cet emploi du temps, tu vas désormais devoir continuer à le respecter comme si tu avais toujours tout, alors que toi et moi savons que tu as tout perdu. Ne va pas croire que je tiens là une quelconque revanche ou que je me réjouisse à l'idée de te voir traverser un tel désert, il n'en est rien. D'abord parce que je suis mort, je m'en veux de le souligner avec emphase, mais c'est désormais établi. Ensuite, parce que je n'ai jamais pris le moindre plaisir à te voir souffrir, il existe toujours un équilibre au sein d'un couple. Chacun investit à la mesure de ce qu'il peut donner, et j'ai été de manière assez systématique celui qui se trouvait du mauvais côté de la barrière. Aujourd'hui, je serais d'un optimisme confondant de naïveté si j'allais jusqu'à affirmer que les rôles retrouvent un semblant d'équité. J'ai néanmoins une chose pour moi. Plus rien ne peut me faire souffrir. Et ce n'est pas le plus anodin des lots de consolation. Mais en ce vendredi soir qui nous colle l'étiquette d'amant maudit sur le front, je voudrais tant te serrer contre moi, sentir ton corps contre le mien une dernière fois, essuyer ton visage qu'une grimace de douleur a figé. J'aimerais pouvoir t'aider à affronter l'instant et le regard inquiet de ta femme quand tu vas franchir à nouveau le seuil de ton appartement. Comme lorsqu'à Tinos, la plus désertique des îles des Cyclades, où nous passions l'unique semaine de vacances que nous ayons prise ensemble, nous sommes tombés nez à nez avec l'une de tes connaissances professionnelles dans une auberge qu'aucun guide touristique n'avait pourtant jamais jugé bon de répertorier. Au moment même où le type a fendu la foule pour t'aborder d'un tonitruant « C'est pas vrai, toi ici !» mon pied nu a cessé d'aller et venir sur ton mollet. Puis passé le sentiment d'une gêne incommensurable, c'est moi qui ai pris l'initiative de me lever d'un bond pour lui répondre à ta place « Enchanté, Xavier, je suis le cousin de Mathieu. Je l'héberge quelques jours dans une ancienne bergerie que j'ai louée pour l'été. » Je tendis alors le bras et l'index dans la direction d'un hameau que nous avions traversé quelques minutes plus tôt en quittant la plage de Livada, plage où il aurait tout aussi bien pu nous surprendre une heure plus tôt, main dans la main, yeux dans les yeux. Ce qui aurait rendu la thèse de la cousinade sensiblement moins vraisemblable. Mais il en fut toujours ainsi, pendant les 26 mois qu'aura duré notre histoire d'amour, je ne me résoudrai jamais à la qualifier de liaison, nous t'avons toujours préservé. Plus le contexte était connoté et la rencontre gênante, plus belle était la pirouette. Rétrospective Ryan McGinley, projection de A Single Man, ou concert privé d'Anthony and the Johnsons dans un club de la rue Montmartre, je parvenais à fournir une explication plausible à ma présence à tes côtés, à ceux qui formulaient, innocemment ou non, le souhait d'en savoir davantage sur ton ami. L'enjeu principal était de leur servir la version qu'ils avaient envie d'entendre. Rien de bien compliqué. De la même manière, j'aimerais composer le digicode de la porte de ton immeuble, puis appuyer sur la commande de l'ascenseur, prendre place à tes côtés dans la cabine, essuyer mes chaussures sur le paillasson, introduire la clé dans la serrure de cet appartement qui est le vôtre, et toute honte bue, toute vraisemblance évanouie, tendre une main ferme et volontaire à ta femme et improviser je ne sais quelle excuse bidon, prêt à me faire passer pour ton psy, ton ange gardien, ton cousin, pourquoi pas. Mais non, rien n'y fait. Cette fois, c'est bel et bien dans tes propres réserves de mensonges qu'il va falloir puiser. C'était Un empêchement de Jérôme Aumont. Lors de la pause musicale, nous avons entendu Nothing's Gonna Hurt You, Baby, du groupe Cigarettes After Sex. Cette émission a été produite par Frédéric Guillon. Vous pourrez écouter la suite de mon adaptation de ce roman dimanche prochain. Je vous souhaite une agréable soirée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.